Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie et restez avec nous pour cette nouvelle émission d'un jour dans l'histoire consacrée à l'appel du 18 juin 40. Dans la mémoire collective des 30 dernières années, l'appel du général de Gaulle apparaît comme un des textes les plus importants de l'enseignement contemporain, largement imprimé, placardé, diffusé dans les écoles, célébré. Il eut pourtant à l'époque, en 1940, un retentissement bien moins important. Habitués par l'hypermédiatisation, nous avons généralement du mal à nous représenter les événements tels qu'ils furent dans leur réalité. Aussi, la première question que nous pourrions nous poser, simplement, est la place qu'occupait le général de Gaulle à la fin des années 30. Que représentait-il exactement au sein de l'armée, mais aussi politiquement ? Quelles furent ses intentions et ses motivations en se rendant à Londres et les obstacles qu'il rencontra dans son ascension. Ensuite, nous pourrions nous demander comment ce soldat a-t-il acquis une légitimité avant d'entrer dans une légalité, la légalité internationale. Bref, comment devenir le général de Gaulle ? Une question que nous allons aborder au cours de ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire avec Jean-Luc Barré. Jean-Luc Barré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente, vous êtes historien, écrivain. Vous avez notamment consacré une biographie croisée de Jacques et Raïssa Maritain, une biographie couronnée par l'Académie française en 1996, si mes souvenirs sont bons. Vous avez publié en 2003 un ouvrage consacré au général de Gaulle, et pas n'importe quel ouvrage, puisque vous vous êtes intentionnellement cantonné à la période 1939-1943. Ce livre s'intitule « Devenir de Gaulle » et il vient d'être réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Timpous. Alors ma première question, Jean-Luc Barré, c'est souvent une question sur les sources. Il est vrai, et vous le dites dans votre avant-propos, on a l'impression que tout a été dit sur le général de Gaulle. Il y a tellement de livres sur ce personnage qui domine le XXe siècle politique français que l'on se demande ce que l'on peut apporter en plus. Et vous, visiblement, vous avez bénéficié d'un avantage sur beaucoup d'historiens.
Oui, enfin, d'abord, je pense que le général de Gaulle est mort il y a 40 ans. Bon, et 40 ans après, il arrive que certaines sources ne soient pas accessibles déjà. Il y a des fonds d'archives qui longtemps sont restés fermés, c'est le cas simplement des archives de Gaulle. Voilà. Beaucoup d'historiens ont travaillé sans avoir accès à ces archives, qui étaient aux archives nationales, qui étaient, par la volonté de Philippe de Gaulle, fermées pour un certain temps, et qui sont une véritable mine. Et moi, d'ailleurs, je n'ai pas tout exploité, puisqu'il y a d'autres périodes que je n'ai pas exploitées, que j'exploiterai sans doute pour un travail à venir. Donc, je veux dire que de Gaulle est loin, évidemment, d'avoir livré tous ses mystères. C'est un peu naïf de penser que on peut, comme ça, solutionner et régler, élucider, je dirais, le mystère d'un tel homme en 40 ans. Napoléon, après tout, aujourd'hui encore, on découvre des choses. Donc, je veux dire, il y a des sources sur des périodes peut-être plus récentes. Je pense à l'Algérie, je pense d'une manière générale à la Ve République, qui n'ont sans doute pas été exploitées. Mais, écoutez, je suis en train de publier pour collection bouquins que je dirige, les lettres notes et carnets du général, en 3 volumes, et bien nous allons publier 100 de lettres inédites. Donc c'est vous dire qu'il y a encore énormément de documents, à mon avis, disponibles. Il faut chercher simplement, et on doit trouver.
Alors vous avez cherché notamment auprès de son fils, l'amiral de Gaulle.
Oui, il se trouve que j'avais travaillé avec lui sur ses propres mémoires, qui s'appelaient « Mémoires accessoires », et il savait mon intention d'écrire sur le général. Et un jour, il m'a dit, écoutez, si vous voulez, je vous ouvre à titre, j'allais dire, exceptionnel. Mais enfin, depuis, d'ailleurs, les archives ont été ouvertes à d'autres, les archives de mon père. C'est vrai, quand il m'a dit ça, la première réflexion que je me suis faite, c'est quel est l'angle que je vais choisir, naturellement, il n'était pas question. En tout cas, dans l'immédiat, une biographie du général. Et qui plus est, ces archives étaient ouvertes sur une période précise, qui était le début de la France libre. Et depuis longtemps, une question me taraudait, enfin en tout cas me préoccupait, c'est comment est-il devenu de Gaulle ? Parce que là aussi, c'est une question qui paraît quasiment réglée. Une fois qu'on a dit c'est l'homme du 18 juin, alors voilà, il y a le 18 juin et puis tout est réglé. Et ce processus, voilà, ce que j'essaie de montrer, c'est que le 18 juin est vraiment une étape, mais évidemment symboliquement très forte. Mais le lendemain du 18 juin, il y a une grande solitude. Et il y a une grande solitude aussi à la fin du mois de juillet, et il y a une grande solitude un an plus tard. Donc c'est un processus, finalement, qui a fait de Gaulle. Et ce processus, il démarre bien avant le 18 juin. Il démarre d'ailleurs pratiquement au moment précis où, à l'âge de 15 ans, il s'imagine déjà en général de Gaulle. Donc il y a quand même en lui cette espèce de, non pas de préscience de son destin, mais de ce, le sens en tout cas d'un destin possible. Et il va le construire en construisant son personnage à partir de, d'une certaine époque, c'est-à-dire du fil de l'épée. Voilà. Enfin, tout ça, j'ai essayé de le montrer à travers cet ouvrage et en m'appuyant en effet sur des archives et des sources assez nouvelles.
Alors, nous allons nous plonger dans le sujet, Jean-Luc Barré, et nous nous situons donc à la fin des années 30. Avant tout, peut-être un portrait psychologique de Charles de Gaulle, ce qui est frappant, une sorte de pessimisme, et un pessimisme de droite, ou une prudence, ou une méfiance. Vous le citez, il faut avoir du chagrin au sujet de la France, confiera-t-il à la fin des années 50. La France en vaut la peine, et c'est un service à lui rendre. C'est propre à sa famille.
D'abord, il y a un mot qui revient étonnamment d'ailleurs dans ses livres, même et surtout d'ailleurs dans les livres, dans ses manuscrits et surtout dans ce que j'appellerais ses repentirs, mais qu'on trouve aussi dans ses mémoires, c'est le mot chagrin. Et la mélancolie, le chagrin, oui, qui est propre, alors propre à sa famille, je ne sais pas, enfin son père, oui.
Était sa famille de pensée.
Oui, d'accord, mais sa famille d'ailleurs naturelle, son père était un grand mélancolique parce que c'était un homme qui d'une certaine manière avait raté, s'était passé à côté de sa carrière militaire à cause de la guerre de 70, et qui avait fait une carrière de professeur et qui, je crois, n'avait gardé de cet échec sur le plan de sa carrière militaire une certaine tristesse. Pessimisme, écoutez, je crois qu'il y a chez De Gaulle aussi une énergie, une capacité d'espérance extrêmement forte.
Donc, dans le fil de l'épée.
Exactement. Donc, mais ce qui compte dans la carrière de De Gaulle pour comprendre cette tristesse, cette mélancolie qui est tout de même inhérente au personnage, je l'attribuerais, moi, plutôt à la Grande Guerre et à ce qu'a été l'échec pour lui de cette Grande Guerre. Voilà un homme qui, au fond, aurait pu d'abord choisir une carrière littéraire ou professorale, mais qui choisit une carrière militaire, en grande partie d'ailleurs, pour compenser un petit peu ce qu'a été la déception de son père. Il est très fier quand même d'ajouter le nom de Saint-Cyrien à cette lignée familiale. Et donc, il se rêve au fond en quoi ? En Turenne, en Condé. Il veut être Condé, il veut être Turenne, il veut être Foch. Bon. Voire Pétain. Et en tout cas, un grand chef militaire. Bon, il se prépare à cela. Et arrive cette grande guerre qui, pour lui, va se solder par une déception extrêmement dure, qui est que cette guerre, il ne l'a pratiquement pas faite. Enfin, il a été blessé, certainement, mais il a été très vite emprisonné et il passe la plupart de des mois et des années de la grande guerre en prison en Allemagne. Il s'évade à plusieurs reprises, il est repris, etc. Si bien qu'à la fin de cette guerre, le rêve de De Gaulle de devenir un grand chef militaire s'est effondré. Et il s'effondre, et De Gaulle a conscience, qui plus est, que cette paix va être extrêmement fragile, que la France sort exsangue de cette guerre, sans parler de l'Europe, et que le véritable défi va être ailleurs, et que, en tout cas, la France n'a sans doute pas gagné cette guerre autant qu'elle l'imagine. Donc le débat n'est plus d'ordre militaire, il va devenir d'ordre politique pour lui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que devenir De Gaulle, c'est devenir un homme d'État.
Alors, est-ce que cette conversion, et peut-être que nous allons un peu entamer le sujet, mais est-ce que cette conversion du militaire vers le politique, elle se fait quand ? Elle se fait dans les années 20, dans les années 30, ou bien elle se fait dans les années 40 ?
Elle se fait dès la discorde chez l'ennemi, c'est-à-dire en 1925, à partir du moment où il commence à écrire des textes qui sont, sans parler du fil de l'épée, où il fait même l'éloge de la désobéissance, ses premiers livres qu'il publie sans demander l'autorisation à sa hiérarchie. D'un instant qu'il devient un rebelle, il a toujours été un peu un rebelle, mais ce rebelle s'affirme à partir de ces années-là. Je dirais que la mutation du militaire vers le politique se fait à partir des années 20, début des années 20. D'ailleurs, pourquoi dérange-t-il autant au sein de l'armée ? C'est parce qu'on sent bien, il affirme une différence qui n'est pas seulement militaire, mais qui est seulement politique. Il se mêle en quelque sorte de choses qui ne regardent pas traditionnellement un jeune officier. Il publie des livres, il exprime des idées et ses idées sont politiques.
En vous écoutant, je pense à Churchill. J'ai reçu à plusieurs reprises François Kersaudy et Churchill apparaît effectivement comme un personnage qui, lui, est intégré dans l'armée et puis qui se met à écrire, à écrire, à écrire, à contester lui-même la hiérarchie. Et c'est un trait de son caractère, c'est il a à la fois l'indépendance d'esprit, là je parle de De Gaulle, l'indépendance d'esprit et le sens de la provocation.
Oui, ça c'est vrai, il l'aura toujours d'ailleurs parce que dans ses formules, etc. Il a ce sens de la provocation. Parce que ce sens de la provocation est largement lié aussi à une conscience de supériorité. Écoutez, il y a des moments où on n'a pas trop de mal à se sentir supérieur à l'égard d'un certain nombre de gens. Et c'était le cas de Gade de Gaulle vis-à-vis d'une partie de l'armée, de ce milieu qui lui apparaît largement médiocre, ce milieu qui ne l'aime pas, qui plus est. Et je crois qu'il provoquait, c'est Dominique de Roux qui disait que la provocation, c'était une manière, une façon de remettre en marche les choses. Bon, voilà, c'est une manière aussi de faire bouger les choses, de les remettre en marche, de les provoquer des idées à un moment de conservatisme sur le plan stratégique, sur le plan militaire. de conservatisme politique. Et c'est effectivement une façon de s'affirmer. Voilà. On retrouve aussi l'écrivain derrière tout ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a chez De Gaulle un écrivain, un homme qui sait se servir de formules, qui sait être provoquant avec des formules et qui est provoquant dans ses attitudes parce qu'il est provoquant dans ses idées.
Est-ce que la veille de la guerre et même dès les premiers mois de la guerre, c'est un homme isolé du fait de ce tempérament ?
On peut dire ça, oui. C'est un homme qui est militairement, qui n'a pas eu, malgré la protection du maréchal Pétain, qui n'a pas eu les grades auxquels il aspirait, qui n'a pas eu les fonctions qu'il méritait sans doute. Il a même été d'une certaine manière exilé au Liban à la fin des années 20, au début des années 30. Il paie cher les livres qu'il publie. Je répète qu'il les publie sans demander l'autorisation de sa hiérarchie, ce qui est tout de même singulier à ce moment-là. Politiquement, il est, dès l'instant qu'il défend un certain nombre d'idées, notamment sur les questions de l'armement blindé et de la défense de la France, et dès l'instant qu'il se met à rechercher des soutiens politiques, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne les trouve pas facilement. Il y a très peu de gens qui vont le soutenir. Blum, certainement pas. Blum, un peu, en tout cas, tardivement. Un des rares, c'est Paul Reynaud. Il y a Philippe Serres, qui était un député de la tendance démocrate chrétienne. Mais enfin, il est isolé, oui, incontestablement. Il est mal aimé au sein de l'armée. Et politiquement, bon, ses livres se vendent à 400-500 exemplaires. Donc, je veux dire, il est quand même... C'est un auteur confidentiel, un militaire marginalisé. Et politiquement, il n'existe pas, simplement.
Mais il est malgré tout entré en politique, puisqu'il fait partie du gouvernement Reynaud.
Oui, alors... C'est un autre processus. Il y a cette amitié avec Paul Reynaud, enfin, en tout cas, cette relation avec Reynaud qui a tout de même... Paul Reynaud n'a pas été un grand homme politique, mais enfin, il a eu ce talent quand même de savoir détecter le génie politique de Gaulle et en tout cas de croire à ses idées et de les soutenir. Et à un moment, évidemment, De Gaulle devient membre du gouvernement Paul Reynaud en tant que sous-secrétaire d'État, qui n'est pas un grade très important, mais enfin, un niveau très important, mais il est quand même au sein du gouvernement. Et il l'est simplement pourquoi ? Parce que Reynaud... Et beaucoup de gens se rendent compte qu'il avait raison, simplement. Il devient ministre en pleine débâcle, il faut bien se le rappeler, à un moment où pratiquement plus rien ne peut être fait et où ses thèses se vérifient, simplement.
Alors, est-ce que, dans sa tête, il voit la guerre comme une occasion ? Comme une occasion d'une rupture, comme une occasion de changement. Et là, nous ne sommes pas encore à l'appel du 18 juin.
Écoutez, ça serait, en tout cas, je ne pense pas qu'il ait souhaité la défaite ni la débâcle de son pays. Mais la guerre, de toute façon, quand on lit la France et son armée, on voit bien que pour De Gaulle, la guerre est une forge, comme il disait. C'est une occasion de forger les âmes, de forger les nations. Une nation s'invente, se crée, et des caractères souvent, surtout des caractères militaires évidemment, mais d'une manière générale, une nation se forge à travers des grandes épreuves. Donc celle-là en est une, en effet, à un moment où de toute façon la guerre paraît inévitable. Il n'a jamais été pacifiste, il a toujours pensé que cette guerre interviendrait. Alors, son génie, c'est d'avoir compris que cette guerre serait internationale. Bon, ce qui était évidemment pour l'époque très prémonitoire, puisque au fond, on en était resté à l'idée d'une guerre franco-allemande. Enfin, bref, alors c'est quelque chose d'autre qui se passe. Mais je pense qu'effectivement, c'est une. Je ne dis pas que c'est l'occasion d'une renaissance. En tout cas, je dirais que la défaite de 40, ce qui est important de souligner, c'est que pour lui, ça n'est pas une fin. Alors que tout le monde considère que, d'une certaine manière, cette défaite, elle est tellement lourde de conséquences que. Autant disparaître momentanément de l'histoire de France, de l'histoire du monde en tout cas, et de devenir une France un peu satellite de l'Allemagne. Ce n'est pas du tout le cas de Gaulle qui considère que bon, il y a une étape, c'est une bataille, mais la guerre n'est pas perdue, selon la formule célèbre.
Quelques mots peut-être, avant une première pause, quelques mots sur sa pensée politique. Est-ce qu'il voit le conflit de 1939 comme un conflit de civilisation, comme d'ailleurs le voyait Churchill ?
Oh, ça, je ne crois pas. Je n'ai pas le sentiment de... Enfin, civilisation, oui, enfin, il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a un monde totalitaire, enfin c'est très complexe. Dans ce monde totalitaire, il y a aussi l'URSS, donc pour lequel il n'a pas le même jugement vis-à-vis de l'Allemagne hitlérienne. Non, je crois que pour lui, il y a les démocraties, il y a des peuples et des peuples et des nations libres. Et puis de l'autre côté, il y a la barbarie, il y a la barbarie nazie. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que ce soit un conflit de civilisation. C'est plus un conflit moral, je dirais, un conflit politique. Oui.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Jean-Luc Barré, auteur du livre « Devenir De Gaulle, 1939-1943 », paru dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Nous nous retrouvons dans un instant.
1948-2008, la Déclaration universelle des droits de l'homme a 60 ans. Au cours d'une émission Éclairage, Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, examine en quoi les droits de l'homme se sont à la fois enrichis et obscurcis en 60 ans. La Déclaration universelle des droits de l'homme, une émission Éclairage, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée aux années 1939-1943, Devenir de Gaulle, tel est le titre de cette émission, et de votre livre Jean-Luc Barré, un livre que vous avez écrit il y a plusieurs années déjà, mais qui vient d'être réédité donc, dans la collection de poche des éditions Perrin. Alors, nous avons présenté le de Gaulle des années 20 de manière succincte et des années 30. Venons-en à l'Angleterre. Comment le général de Gaulle arrive-t-il en Angleterre? Est-ce que c'est une mission qu'on lui donne ou il y va par lui-même?
Non, son premier voyage à Londres se fait dans le cadre de ses fonctions
de
sous-secrétaire d'État à la Défense nationale, puisque je rappelle que nous sommes jusqu'à une certaine époque les alliés de l'Angleterre. Donc il y va dans le cadre de l'Alliance, il y va pour des contacts, des entretiens avec notamment le Premier ministre, qui l'a repéré d'ailleurs, Churchill l'a repéré, comme il dira plus tard, l'homme du destin. Mais enfin, quand il le voit dans les journées tragiques de Touraine, sous le gouvernement qui s'est replié, qui va se replier vers Bordeaux, à des négociations avec l'Angleterre, et que Churchill sent bien que les Français vont trahir les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de l'Angleterre, il s'aperçoit qu'il y a un homme qui est là, un homme assez étonnant physiquement déjà, un personnage un peu d'allure un peu médiévale. Et puis en même temps, cet homme de caractère qui, lui, est tout à fait opposé à l'idée même d'une rupture avec l'alliée anglaise. Donc, il l'a repéré et un contact s'est noué. Alors, il va en Angleterre, effectivement, pour des entretiens à la fois militaires essentiellement. Et c'est l'occasion surtout de contact avec les Anglais. Alors, il va y revenir. Enfin, il y va à un moment où la situation est devenue tellement grave aussi que l'idée d'une possible, c'est une idée assez chimérique apparemment, mais enfin, l'idée d'une possible fusion entre l'Angleterre et la France. C'est-à-dire, c'est une idée qui est lancée par Jean Monnet. Et de Gaulle, finalement, bon, lui qui n'a jamais été, quand même, il faut bien le dire, un anglophile fervent. Ben, bon, Fashoda, tout ça, ça reste un peu dans sa mémoire. Bon. Lui qui est plutôt de culture germanophile, qui a plutôt lu les grands auteurs allemands, l'idée d'une fusion, d'une espèce d'alliance, c'était plus qu'une alliance, c'était vraiment un seul gouvernement, d'une certaine manière. C'était ça l'idée, pour faire bloc et pour empêcher surtout une scission entre les deux nations. Cette idée, bon, il y adhère d'une certaine manière, parce qu'il sent bien que c'est peut-être une des solutions qui va permettre d'éviter l'armistice. Et donc, il va se trouver à Londres à ce moment-là, et il va rentrer dans la journée du 16 juin, autant que je me souvienne, ou en fin d'après-midi du 17 juin plutôt, à Bordeaux, où se trouve le gouvernement. Il arrive d'Angleterre pour faire cette proposition, précisément. Il y a cette idée donc, qu'il va proposer à Pétain, qui est le nouveau chef du gouvernement. Il arrive d'ailleurs à Bordeaux à un moment où Paul Reynaud vient de démissionner, d'être contraint de démissionner, et Pétain est arrivé. Et bon, la question ne se pose déjà plus, puisque l'armistice est quasiment demandé. Donc, et il va y avoir cette nuit absolument tragique qu'il racontait plus tard à Malraux. Et Malraux, cette fameuse nuit où il est à Bordeaux, la veille de son nouveau départ pour Londres, où il est à la merci d'une arrestation. Puisqu'il y a des gens qui sont arrêtés. Mandel va être arrêté dans la journée du 17 juin par Mandel, qui était ministre de l'Intérieur, qui pensait qu'il fallait continuer la guerre. Donc, de Gaulle, il y a cette fameuse nuit, il va prendre sa décision de rupture, c'est-à-dire de repartir à Londres. Alors là, cette fois-ci, alors il repart à Londres comme sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. C'est important de le comprendre parce qu'il a toujours eu le sentiment qu'il détenait la légitimité parce qu'il était tout de même... D'abord, il considérait que l'armistice était une trahison et que le gouvernement dont il dépendait, d'une certaine manière, continuait. Il n'y avait pas eu de rupture. Si bien d'ailleurs que quand il rentrera à Paris à l'automne 1944, son premier geste, qui est très fort sur le plan symbolique, c'est de se réinstaller dans son bureau de la rue Saint-Dominique, comme s'il ne l'avait jamais quitté, d'une certaine manière.
Bon. Est-ce qu'il se considère d'entrée de jeu comme mandataire de la nation et de l'État?
Oui, ça c'est clair. Il considère que... D'abord, il considère qu'il est légitime parce qu'il est encore une fois secrétaire d'État d'un gouvernement, même si ce gouvernement n'existe plus, mais tout de même, il est pour lui le dernier secrétaire d'État à la Défense du dernier gouvernement légitime de la Troisième République. Voilà l'idée. Bon. Et de fait, le gouvernement Pétain se constitue dans des conditions qui ne sont pas extraordinairement démocratiques. Je rappelle, enfin, on sait ce qui se passera ensuite avec la création de l'État français. Donc, il considère qu'il est mandataire de cette nation. Tout ça est évidemment un peu imaginaire. Je ne le nie pas. Mais ça a sa cohérence. C'est-à-dire, au fond... Il a toujours considéré que la République n'avait jamais disparu en tant que telle. Simplement, d'autres gens avaient pris la tête du pays dans des conditions un peu discutables et pour commettre cet acte de trahison qui était l'armistice. Voilà le schéma gaullien. Et donc, il n'est pas mandataire de la nation, il ne représente que lui-même à l'évidence. Mais il incarne en tout cas quelque chose d'essentiel, c'est la volonté de continuer le combat. face à des gens qui vont cesser le combat, sa légitimité est de vouloir de s'exprimer au nom d'une nation qui veut continuer le combat. Il est mandataire d'une nation combattante, si vous voulez. Même si ça paraît un peu fictif à cette date, évidemment.
Ce qui est incroyable, c'est que finalement, on pourrait se dire, il arrive en Angleterre, il va attendre, il va réfléchir. Non, moins de 24 heures après son arrivée, il y a ce texte à la BBC. Quelle est l'origine de ce texte ?
Ce texte, il l'a écrit à son arrivée à Londres. Je crois que c'est un texte qu'il avait mûri de longue date, d'une certaine manière. Mais enfin, en tout cas, ce texte, il l'écrit à son arrivée à Londres avec sa secrétaire Elisabeth de Miribel qui tapait ce texte. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ce texte sera légèrement amendé par le cabinet de guerre anglais qui est le 18 juin. Il faut bien voir le contexte du 18 juin. Il faut même voir le contexte des jours qui vont suivre. Où l'Angleterre n'est pas encore résignée à l'idée d'une rupture des relations non seulement diplomatiques, mais militaires avec la France. Il y a toujours l'espoir que quelqu'un d'autre va arriver. Bon, il faut bien rappeler ça. C'est-à-dire que quand de Gaulle arrive à Londres pour le deuxième voyage, donc à la veille de l'appel du 18 juin, évidemment, Churchill est ravi de le recevoir. Il se voit, mais enfin, Churchill attend quelqu'un d'autre. Il y a quand même l'idée que, même s'il se sent mandataire de la nation, un Nogues, qui est tout de même gouverneur du Maroc, pourquoi pas un Mandel, qui lui va non pas partir à Londres, mais va partir sur le Massilia et sera arrêté dans les conditions que l'on sait. L'idée que peut-être un Darlan, peut-être, enfin bref, quelqu'un de très représentatif, va se présenter à Londres pour poursuivre le combat. Vous parliez de provocation. Je trouve qu'il y a dans l'appel du 18 juin quelque chose qui est de l'ordre de la provocation, parce qu'il s'exprime à titre solitaire, dans un contexte. Bien sûr, on lui permet d'accéder à la BBC parce que c'est nécessaire d'appeler à la poursuite du combat, mais il le fait dans un contexte anglais qui est extrêmement difficile pour lui. D'une part, une grande partie du War Cabinet, le cabinet de guerre, est plutôt de tendance pacifiste. Churchill a le plus grand mal, finalement, à s'imposer, et qui plus est, Churchill lui-même ne désespère pas que quelqu'un d'autre se présente. Et je pourrais ajouter aussi le fait que Churchill, à ce moment-là, souhaite ménager tout de même un peu Bordeaux, le gouvernement de Bordeaux, pour faire en sorte que l'armistice se passe le plus tard possible. Voilà, donc tout ça fait que ce geste du 18 juin est très fort sur le plan symbolique, mais c'est celui d'un homme extrêmement isolé, bien sûr.
Alors, son premier souci, précisément, ça sera d'obtenir cette reconnaissance. Et il y a ce moment que vous décrivez, le 27 juin au soir, donc un peu moins de 10 jours après, Churchill convoque De Gaulle et lui dit « Vous êtes tout seul ?» Point d'interrogation. Eh bien, je vous reconnais tout seul. Et donc, il y a un pari, mais bon, on sait que un pari sur l'avenir, mais... Est-ce que le pari de Churchill est réel, puisqu'on connaît la difficulté des relations entre De Gaulle et Churchill ?
Oui, enfin, à cette date, les relations ne sont pas encore difficiles. Donc, il y a, entre ces deux hommes, beaucoup de raisons de se comprendre. Enfin, ils sont quand même...
Ce sont deux batailleurs.
Ce sont deux combattants, sont deux batailleurs. Ce sont deux hommes qui ont vu très tôt, qui ont pressenti très tôt ce qui allait se passer. Ce sont des hommes qui ont quand même... commun, ces deux nationalistes, enfin, De Gaulle n'était pas de nationalisme, enfin ces deux nationaux, deux hommes qui portent en eux leur patrie. Il y a une fougue, il y a une énergie, il y a une imagination. Et puis il y a deux hommes qui se connaissent, qui repèrent et qui discernent assez vite le génie de l'un par rapport à l'autre. De Gaulle qui est un homme au fond qui a... On parlait de supériorité tout à l'heure, mais le grand problème de De Gaulle, c'est de ne pas avoir rencontré dans cette période des années 30 et des années 20, en dehors peut-être d'André Tardieu et encore, un homme politique... du niveau d'un Churchill et de son niveau à lui, d'une certaine manière. Bon, il reconnaît tout de suite l'homme politique de race qu'est Churchill, ce personnage difficile, complexe, ce grand romantique qu'est Churchill. Il se parle d'égal à égal très rapidement, ce qui, d'ailleurs, est très surprenant venant de la part de Churchill de le supporter. Il ne va pas le supporter longtemps, d'ailleurs, que cet homme qui ne représente à peu près rien, qui règne sur quelques territoires africains et guère plus, qui commande à quelques milliers d'hommes, puisse... vouloir s'imposer à Churchill et lui parler précisément d'égal à égal. Mais enfin, au point de départ, il y a ça. Et alors, je crois qu'il y a une chose qu'il faut bien dire et bien comprendre, c'est que pourquoi De Gaulle est assez sûr de lui le 18 juin ? C'est qu'il a analysé la classe politique française et qu'il sait très bien qu'il n'y a pas là un homme qui va se lever. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est de savoir, par exemple, au moment où l'Assemblée nationale s'est sabordée, au moment où l'État français est né, de voir que même des gens comme Blum ne se sont pas levés. Blum s'est abstenu. Blum ne s'est pas dressé contre cela. Blum n'a pas cherché à partir. Il voit bien que De Gaulle savait d'avance à qui il avait affaire et simplement Churchill veut le découvrir à son tour.
Précisément, vous parlez bien politique. Est-ce que le général De Gaulle est plus ou définitivement politique à cette époque ?
Ah, sans conteste. La preuve en est, c'est qu'il va laisser à d'autres la gloire des armes. Et je pense à Leclerc, notamment. À aucun moment, De Gaulle ne va être sur le terrain vraiment présent. Il sera en Libye, mais bon, mais il ne sera pas sur le champ de bataille. Il a accepté, lui qui était, je vous renvoie à la France et son armée, où il fait l'éloge de ces jeunes généraux de la Révolution, plein d'élan, fasciné par ces jeunes généraux. Bon. Il les retrouve à la France libre. Ce sont les jeunes généraux de la Révolution, d'une certaine manière. C'est Leclerc, c'est l'Armina, etc. Et il leur laisse la possibilité de s'imposer, de se révéler, surtout comme des chefs militaires. Donc il n'est plus... Enfin, il est le général de Gaulle. D'abord, je vous rappelle aussi qu'il va être, par Vichy, dégradé. Il n'est plus qu'une espèce de ex-général de Gaulle à un certain moment. Sur le plan militaire, il n'est plus... Le gouvernement de Vichy a fait en sorte qu'il ne puisse plus être considéré comme un militaire. D'ailleurs, et d'une certaine manière, il l'accepte. Il est tout de même, lui, conscient que... Un chef militaire comme lui, en tout cas un général comme lui, élevé dans la discipline, dans le culte de cette discipline, de l'obéissance, a pris un risque majeur qui est celui de la désobéissance, qu'il avait légitimé d'ailleurs dans le fil de l'épée, considérant qu'un grand chef militaire, de temps en temps, devait savoir désobéir. Enfin, l'homme qui désobéit en 40 n'est pas un grand chef militaire, donc il a pris le risque, un risque majeur, qui fait d'ailleurs qu'il est condamné à mort, je le rappelle aussi, par Vichy. Bon. Donc la question d'être un militaire ne se pose plus. C'est le général de Gaulle, c'est quand même Charles de Gaulle d'abord.
Alors, quelle action politique, Jean-Luc Barré ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Restez à l'écoute de Canal Académie.
Les deux photographes de l'Académie des Beaux-Arts, Lucien Clergue et Yann Arthus-Bertrand, se livrent au micro de Canal Académie pour vous donner leur regard respectif sur l'univers de la photo. Rencontrés au musée Marmottan Monet où une exposition leur était consacrée, la Camargue natale de Lucien Clergue et le Paris vu du ciel de Yann Arthus-Bertrand sont à l'honneur. Lucien Clergue, Yann Arthus-Bertrand, regard croisé inattendu en terre impressionniste, une émission Carrefour des Arts à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au général de Gaulle aux années 1939-1943, devenir de Gaulle, tel est le titre de votre ouvrage, Jean-Luc Barré. Il vient d'être republié aux éditions Perrin dans la collection de poche, la collection Tempus. Nous avons vu l'appel du 18 juin, nous avons vu surtout que le dessin du général de Gaulle est désormais un dessin politique plus que militaire. Or, sur la question politique, il y a une interrogation qui est la légalité de Vichy. Comment arrive-t-il à contourner cette légalité de Vichy ? Comment, au fond, un, arrive-t-il à présenter la légitimité de son mouvement et deux, à contourner cette légalité politique ? Puisque même Vichy a été reconnu par les Américains et sera reconnu dans un premier temps par les Anglais également.
De Gaulle considère qu'à partir du moment où Vichy est ce qu'il est, c'est-à-dire un gouvernement à la solde de l'ennemi, un gouvernement qui a trahi les intérêts de la nation, un gouvernement qui a empêché que la guerre continue alors qu'elle pouvait continuer en Afrique du Nord, un gouvernement qui a rompu son alliance avec l'Angleterre, donc qui a trahi également cette alliance, un gouvernement qui n'a pas de légitimité démocratique, puisqu'il n'y a pas d'élection, a priori, même si c'est la Chambre du Front Populaire qui a investi, je le rappelle au passage, qui a investi ce gouvernement. Tout ça s'est fait dans des conditions telles de pression, d'intimidation, que ça n'a pas de valeur. Que les institutions, donc, de la Troisième République ne sont bafouées, d'une certaine manière, puisque le régime de Vichy est tout sauf un régime parlementaire. Bon, alors ça fait plaisir aux Maurrassiens, mais je veux dire, ça n'est pas, en tout cas, ça ne fait pas plaisir à De Gaulle. Et De Gaulle considère que ce gouvernement, donc, n'a plus de légitimité. C'est un raisonnement, c'est aussi un sentiment et c'est aussi une prise de position politique. Mais tout cela est tout de même fondé sur un certain nombre de données que je viens de citer qui laissent penser à De Gaulle, je crois qu'il a raison, que ce gouvernement est un gouvernement, en tout cas, qui ne représente pas, c'est un État en effet, mais ça n'est pas la République. Et alors, d'ailleurs, le gouvernement de Vichy ne se réclame pas de la République.
Je disais en début d'émission que l'appel du 18 juin a reçu peu d'écho, mais il en a reçu. Et d'ailleurs, De Gaulle reçoit des messages de soutien.
Oui, enfin, il y a un certain nombre de lettres que je publie d'ailleurs, c'est étonnant qu'il lui arrive, mais oui, il y a eu un certain nombre de messages, mais il faut bien dire que c'est un appel qui a été peu entendu, mais qui a été bien entendu, si je puis dire. Il y a eu, je pense à Pierre Mendès-France, je pense à Georges Bernanos, des gens qui ont entendu ce message, voilà. Il y a des gens qui l'ont entendu et qui ont réagi, et une partie des premiers Français libres, évidemment, pas seulement ceux qui se trouvaient à Londres, mais des gens qui se trouvaient en métropole ou ailleurs, ont réagi à cet appel. Voilà.
Alors,
mais ça reste effectivement assez confidentiel.
Vous parlez de l'ailleurs, vous parlez des établissements français de l'Inde, oui. Des Nouvelles-Hébrides, de Tahiti, de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Le soutien vient malgré tout de loin.
Il vient de loin, mais il vient aussi de métropole. Hein. Je rappellerai qu'il y a tout de même un certain nombre de Français libres qui, assez rapidement, je pense à Étienne d'Orves, mais enfin à bien d'autres, sans parler de ceux d'ailleurs qui n'avaient pas attendu de Gaulle pour entrer en résistance, si je prends le cas de Charles Tillon notamment, et même de Jean Moulin. Tout ça fait que ça ne vient pas que de loin, mais ça vient aussi de loin. De toute façon, c'est clair qu'à ce moment-là, il y a l'Empire français, à ce moment-là, n'est pas évidemment concerné par l'occupation. Donc c'est peut-être plus facile de réagir. Mais il y a une réaction en métropole aussi, bien sûr.
Alors on se doute qu'à la suite de ces réactions, il y aura chez lui des signes d'espoir. Mais tout au long de votre livre, on voit un homme qui, j'allais dire, suit un objectif, un but. Mais bon, il a des périodes de profond désespoir, de profond pessimisme. Mais il marche toujours, il remet toujours l'ouvrage.
Vous savez, il a des raisons d'être pessimiste. Il y a une chose qu'il faut quand même souligner, et même si son énergie n'est pas... N'oublions pas le côté un peu cyclotimique de De Gaulle, et le fait aussi que cet homme qui a été tout de même traumatisé par l'échec de 40, qui a vu son pays s'effondrer dans des conditions absolument épouvantables en quelques jours, qui a vu la lâcheté, qui a vu tout cela, qui a vu la trahison, encore une fois, cet homme-là est bouleversé, ce chagrin est en lui, et la tentation de renoncer existe, même si elle est parfois un peu stratégique. Mais enfin, il lui arrive à moins de 2-3 reprises de décider de se retirer dans la propriété que le gouvernement anglais a mise à sa disposition et de donner l'impression qu'il va arrêter. C'est un peu ce qu'il a fait en mai 68 à d'autres moments. Mais enfin, il y a tout de même chez lui cette inquiétude, cette mélancolie qui est liée au contexte même de son engagement. Mais quand je dis qu'il a des raisons, j'en donnerai une simplement. Ce que je montre dans ce livre, c'est la contestation à laquelle il a dû faire face au sein de la France libre. C'est pour ça que c'est un processus devenir de Gaulle. Il ne s'agit pas simplement entre le 18 juin 40 et la, disons, la fin 41 ou même 42, l'épisode avec l'épisode Muselier. Il ne suffit pas simplement d'avoir fait le discours du 18 juin. Il doit politiquement s'imposer à un certain nombre de gens qui redoutent ce chef militaire, qui voient en lui une sorte de boulanger possible. Bon, c'est le cas de Raymond Aron, par exemple. C'est le cas d'André Labarthe. C'est le cas de toute une série de gens qui se trouvent à Carlton Gardens, qui sont autour de De Gaulle et qui sont des ennemis de De Gaulle. Sans parler de Muselier, qui lui est beaucoup plus gradé que De Gaulle et qui ne comprend pas très bien pourquoi il faudrait absolument s'incliner devant un général 2 étoiles quand on est un amiral avec beaucoup plus de grades. Bon, le seul finalement qui aura compris ce qu'était la légitimité de De Gaulle, politique encore une fois et pas militaire, c'est Catroux, qui est lui aussi beaucoup plus gradé que De Gaulle et qui va accepter.
Et pourtant, les Anglais vont essayer de pousser Catroux à la place de Gaulle.
De Gaulle doit se battre sur le front de la France libre. Ça, on ne le dit pas assez, parce qu'on a une espèce d'imagerie un peu simpliste de la France libre groupée derrière De Gaulle. Mais enfin, il a fallu qu'il s'impose, lui, comme chef de la France libre, à l'intérieur de la France libre. Et puis, il a affaire à des Anglais, en effet, Churchill en tête, qui n'ont, faute d'avoir pu compter sur d'autres que De Gaulle, et qui finissent par être exaspérés par, il faut bien le dire, le côté un peu diva de De Gaulle, cherchent d'autres éventualités, d'autres possibilités. Catroux en était une, et Catroux a eu cette intelligence de comprendre qu'il n'était pas l'homme de la situation. Catroux était un négociateur, un homme du monde, enfin un mondain, un chef militaire tout à fait éminent, mais pas du tout un homme politique. Au fond, ce qu'il fallait, c'est, face à Churchill, un homme politique, un homme d'État. Et cet homme, c'est De Gaulle.
Il y a cette idée d'incarnation de la France. Est-ce que c'est, si vous me permettez cette expression triviale, c'est le moteur du général De Gaulle?
Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir parler, et avec, en étant d'ailleurs, en n'étant pas ridicule. Vous savez, dire « je suis la France », ça peut être tout à fait... prétendre incarner la France, ça peut être tout à fait... peut paraître incongru.
Mais vous le dites, vous citez Olivier Guichard, incarnation et dépersonnalisation vont
absolument faire. C'est-à-dire que cette dépersonnalisation, elle s'est passée quand il écrit Le fil de l'épée en 1932, il a inventé ce personnage. Ce personnage de De Gaulle est là tout entier. Relisez ce livre, c'est fascinant, il est là. Bon. Il parle de lui la troisième personne, il parle d'un autre De Gaulle. Ce n'est pas... Enfin, j'ai publié dans la Pléiade ses mémoires de guerre et je me suis occupé entre autres des repentirs. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est la manière, en écrivant ses mémoires, dont il écartait tout ce qui était « je », le plus possible. Et en tout cas, tout ce qui était relevé de sa personne, plus que de son personnage. Et le personnage de De Gaulle, il n'arrive pas à Londres le 18 juin sans que le personnage l'accompagne, d'une certaine manière. Il est accompagné de ce personnage. Encore faut-il lui donner du crédit, une certaine réalité. Mais il s'aperçoit très vite, d'ailleurs, et l'épisode de Dakar est très important, parce que Dakar, qui est un échec pour lui, on dit qu'après, il a songé à se suicider. Enfin bon, tout ça est un peu, à mon avis, un peu rapide, mais il a été très meurtri par l'échec de Dakar. Et quand il arrive en Afrique, au cœur de l'Afrique noire, au Cameroun notamment, là, il a le sentiment que c'est le personnage de Gaulle que les foules africaines saluent. Il a le sentiment d'être un autre homme, finalement, et que ce personnage va être très lourd à porter. Il a le sentiment d'une servitude. Être de Gaulle, être la France, c'est quand même pas rien. Ça aussi, d'une certaine manière, c'est là où on retrouve l'écrivain. Moi, je pense que pour être de Gaulle, il faut être un écrivain.
Pour être un grand chef d'État, il faut être un bon écrivain.
Oui, oui, c'est pour ça qu'ils sont tellement rares.
Nous n'avons pas évoqué les liens avec le maréchal Pétain. Est-ce que, précisément, ce n'est pas Au fil de l'épée qui crée cette rupture entre les deux
hommes ? Non, ce n'est pas Le fil de l'épée, c'est le livre qu'avait commandé Pétain à De Gaulle, Une histoire du soldat. De Gaulle avait été le nègre de Pétain et Pétain lui avait demandé d'écrire un livre qui était une histoire du soldat. Et De Gaulle l'a écrite à sa manière. De plus en plus, ce livre est devenu le sien jusqu'au moment où il a décidé qu'il le signerait tout seul. Ce qui, évidemment, a provoqué quelques émois du côté du maréchal. Voilà. Donc, c'était le premier acte de dissidence, évidemment.
Mais vous montrez, malgré tout, certains passages, je ne vais pas dire une indulgence, mais parfois une interrogation du général de Gaulle sur Pétain et sur l'avenir. Le de Gaulle des années 1939-1940 à l'égard de Pétain n'est peut-être pas le même que celui des années 41-42 et suivantes.
Oh, écoutez, je crois qu'il y a eu un regret, oui, que tout ça se termine comme ça pour Pétain, parce qu'il considérait quand même que Pétain était plutôt un grand chef militaire, même s'il avait dit en 1925 que Pétain était mort à cette date-là, qui était la date où Pétain avait accepté de remplacer Lyoté au Maroc. De Gaulle avait trouvé que cet acte, la manière dont on s'était débarrassé de Lyoté, était ignoble. Bon, non, je crois qu'il n'y a pas chez lui de la moindre indulgence à l'égard de Pétain, mais il y a... Enfin, il va tout de même le gracier en 1945. Il y a tout de même une filiation. Il y a eu entre ces deux hommes une relation à un certain moment. Il y a eu cette rupture. Pour devenir De Gaulle, il fallait tout de même, à un certain moment, forcément, que Pétain disparaisse, si je puis dire. Donc, il y a ce lien. Il y a ce lien qui existe. Mais pour autant, il juge très sévèrement le maréchal Pétain. Bon, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus.
Il y a un élément qu'il juge aussi sévèrement. Ce sont les Français eux-mêmes. Et vous accordez tout un chapitre.
Oui. Français entre eux.
Français entre eux. Le titre du chapitre, on le voit vraiment très critique à l'égard de, j'allais dire, de, pour aller au plus court, de ce village d'Astérix qui se bat constamment et qui se divise constamment.
Oui, alors avec quelques exceptions, parce que les Français qui arrivent de l'île de Sein, ils trouvent qu'ils sont à la hauteur de l'histoire nationale. Mais d'une manière générale, bien sûr, ils trouvent que les Français ne sont pas la France. Il ne faut pas confondre la France et les Français. Les Français sont un peuple qui a la manie de la division, qui ignore ce qu'est l'unité nationale ou qui, de temps en temps, la retrouve. Le problème, c'est qu'il retrouve cette France en miniature à Londres. C'est ça, le fond du problème. C'est que non seulement il a cette perception du peuple français, mais que cette division a coûté d'ailleurs au pays, mais il retrouve autour de lui des Français de Londres qui se chamaillent, qui sont dans des querelles, dans des divisions. Il faut bien se rappeler, quand il arrive à Londres, dans les premiers temps, notamment, il y a une partie des Français libres, une petite partie, mais qui s'étonne de la présence de Juifs dans la France libre. De Gaulle est obligé d'expliquer que Georges Boris et que André Veil-Curiel ont leur place au sein de la France libre comme tous les autres. Enfin, bon. Donc il y a cette image, une France, un peu de l'affaire Dreyfus, une France... L'antisémitisme n'est pas qu'à Vichy, enfin, je veux dire, même si évidemment l'antisémitisme a d'abord été à Vichy. Mais il y a ces Français qui le déçoivent d'une certaine manière. Il y a Muselier qui incarne aussi la division. La France libre va être très divisée. Et au fond, l'unité se fera à travers des combats, se fera sur le plan militaire, mais ne se fera jamais totalement politiquement.
Vous montrez notamment, il y a tout l'épisode de l'URSS qui est capital et qui pose d'ailleurs la question du général de Gaulle avec le Parti communiste.
Oui, enfin, c'est-à-dire, c'est un peu long pour aborder cela de manière très détaillée.
On pourrait en faire une
émission. Mais il y a un moment, effectivement, alors ça, je crois que ça relève de la provocation aussi, où fatigué, ulcéré par l'attitude des Anglais à son égard, il menace de s'installer en URSS. Bon, alors... Il avait pris d'ailleurs des contacts avec les diplomates russes. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça aurait été possible. Je ne vois pas De Gaulle vivant sous Staline.
Ici Moscou.
Ici Moscou. Mais enfin, il a vis-à-vis des communistes... Enfin, il juge les communistes français. Il sait tout de même ce qu'ont fait les communistes français en 1939. Il sait aussi qu'ils ont participé d'une certaine manière à une trahison en soutenant l'URSS au moment de l'alliance avec l'Allemagne. Mais il sait aussi, à partir d'une certaine date, que les communistes se battent du bon côté. Donc, de ce point de vue-là... Il savait que quelques communistes, pas tous, avaient fait très tôt le choix de la résistance. Et il les soutiendra, il les défendra, notamment dans la Constitution. C'est un événement très important, la Constitution de ce premier gouvernement dont je parle à la fin de ce livre, où il négocie pied à pied avec les communistes. Et les communistes seront absents d'ailleurs de ce tout premier gouvernement parce qu'ils ne cèdent pas aux pressions des communistes. Donc il y a un rapport de force avec les communistes. Il y a aussi une sorte d'estime patriotique à l'égard d'un certain nombre d'entre eux en tout cas.
Alors, il y a tout ce combat de Gaulle-Giraud hein, que nous avons abordé au cours de l'émission avec Michel Cointet. Je renvoie nos auditeurs au téléchargement. Nous arrivons, Jean-Luc Barré, peu à peu au terme de cette émission. Ce que je retiens vraiment, c'est cette volonté politique et cet homme politique avant d'être un militaire. Et finalement, vous terminez votre ouvrage en vous posant la question de savoir si le général de Gaulle fut plutôt un rebelle ou plutôt un monarque. Et le rebelle, on le voit d'abord, le rebelle militaire, le monarque, on le voit d'abord comme politique. Alors, rebelle ou monarque ?
Je dirais un peu les deux, parce qu'il y a dans l'idée de légitimité une part de légitimité d'ordre monarchique, précisément. Il se pense un peu en souverain de la France. Mais enfin, je dirais que c'est un monarque rebelle, plutôt. Je pense que les deux se conjuguent étroitement. Il y aura toujours chez ce monarque, y compris le monarque de la Ve République, un rebelle, un homme qui n'est pas un conservateur, à aucun point de vue. Mais ce qui est important, pour résumer les choses, c'est que devenir de Gaulle, ça veut dire incarner la France. Et pour incarner la France, on parlait tout à l'heure de légitimité. Comment cette légitimité s'est construite ? La légitimité de Gaulle, elle se construit à travers la mutation et l'évolution qui sera la sienne du point de vue politique. Voilà un homme qui, en 40, à la fin des années 30, n'est pas vraiment un homme. C'est un républicain, mais enfin un républicain assez critique à l'égard du système, qui comprend très vite que pour devenir de Gaulle, il faut qu'il représente la République, qu'il soit rassembleur de cette République, qu'il soit donc rassembleur des valeurs de la République, et qu'il incarne ces valeurs de la République, et qu'il rassemble l'ensemble des, si je puis dire, l'ensemble des partis politiques, la gauche comprise. Et c'est cet effort-là qu'il va faire de Gaulle. C'est-à-dire que quand il va restaurer l'institution parlementaire en 1943 à Alger, il est face à la France, c'est-à-dire à une France où il y a une femme, un prêtre, mais des communistes, mais des socialistes, mais des hommes de droite, etc. Et c'est ça qui va faire de Gaulle. La légitimité de Gaulle, elle se fonde sur l'incarnation d'un pays, et cette incarnation ne se décrète pas. C'est tout le processus, finalement, des trois années qui vont faire de Gaulle. Je considère, moi, qu'en 43, il est de Gaulle, parce qu'il est reconnu comme tel par la plupart des grandes nations, et démocratiquement, enfin, il a restauré les institutions de la République. Quitte à être critique à l'égard de ces institutions. Mais enfin, il y a chez de Gaulle un homme de continuité, n'oublions pas.
Précisément, l'homme de 58 est lié à l'homme de 1940.
Écoutez, je publie dans ce livre un des premiers projets constitutionnels de Gaulle. De Gaulle a été hanté par l'idée d'un exécutif fort et il en pose les bases dès, dans mon souvenir, 40-41, dans les projets de la France libre, dont je rappelle aussi que la France libre a été une sorte de gouvernement, de pré-gouvernement, enfin de gouvernement avec des projets dans tous les domaines, eh bien, il y a des projets constitutionnels qui préfigurent largement les institutions de la Ve République. De ce point de vue-là, il est très cohérent.
Eh bien, c'est sur cette idée de cohérence que nous allons nous quitter. Jean-Luc Barré, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Devenir de Gaulle, 1939-1943 » de Jean-Luc Barré, chez Perrin, dans la collection de poche Les Éditions Tempus. Merci.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.